Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble!
Vite, paf, droite, gauche, droite. Sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, naturopathie. Lymphe de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxe et podcast. Laurent Sicot parler, bienvenue sur le podcast.
En direct d'un salon de Rosemont-Montréal, et là je vous avertis, vous allez entendre les hélicoptères, les autos, les avions, ça brasse dans mon quartier, il y a des parties dans la ruelle. Moi j'ai jamais fait ça le party, parce que j'ai toujours été un homme sérieux, je travaillais déjà en très bas âge, j'avais 18 ans, moi je travaillais 70 heures par semaine. Fait que des affaires là, je voyais jeune dans ma ruelle, et c'est sur le party, ça travaille pas, ça joue au basketball. Là, je me dis, mais voyons, à 18 ans, moi, j'avais déjà 3 années de service à Post Canada. Je travaillais 70 heures par semaine. J'étais inspiré par des gens qui travaillaient encore plus que moi, comme David-Alexandre Clapin. Puis là, je vois les jeunes, puis je me dis, ça doit être ça, vieillir. Hein? On critique la génération qui nous suit. Puis on commence à être nostalgique d'une autre époque. Donc, je suis rendu un vieillard. Immense fin de semaine de boxe, puisque, rappelons-le, c'est un podcast de boxe où je tergiverse pendant l'introduction. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vendredi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dans les derniers temps. Genre, je me lève à 4h55 pour aller travailler, mais j'ai vraiment lâché la diète, j'ai lâché les vitamines, j'ai lâché les suppléments. Je m'alimente beaucoup au gourou. Tu sais, je bois des gourous légers comme beaucoup à chaque jour. Fait que à chaque fois comme je suis fatigué, je prends un gourou, mais là, ça peut être 3-4 fois par jour. Je n'ai pas de genre à cacher la vérité. Là. Des fois, je prends 4 gourous par jour. Okay? Fait que là, je suis gourou, je mange mal. Là, j'ai comme des baisses d'énergie. J'ai les yeux qui restent comme pas d'un trou. Je suis quelqu'un d'excessif. Autant je peux faire 6 mois de diète, autant je peux faire 4 mois de diète au poulet fricaine toqué. J'ai clairement un trouble alimentaire. J'ai clairement un trouble entre les deux oreilles que j'essaie de gérer, mais que dans le fond, j'ai jamais réussi à gérer. Ce que je fais, c'est que j'endors le trouble. Tu sais? J'ai des problèmes de dépendance affective. J'ai des problèmes de boisson. J'ai des problèmes de gambling. J'ai des problèmes avec les femmes. Puis ce que je fais, là, c'est au lieu de le régler, mais je me dis, je toucherai pas à ça pendant des jours puis des jours. Là, j'arrive à enfouir le problème. Mais dans le fond, j'ai pas réglé le pourquoi du problème. Fait que je vais probablement passer ma vie en ayant le goût de gager, en ayant le goût de voir plein de filles tout le temps, en ayant le goût de manger comme un cochon. Puis, ben, je vais passer ma vie à combattre ça. Puis finalement, j'aurais pas vraiment vécu. Alors, cette semaine, on a Kim Clavel là, qui se faisait son retour sur le ring de la Place Belle. La question la plus posée de la semaine, c'est « Il y a combien de billets de vendus? » Fait qu'on va régler ça dans le premier segment, alors qu'un hélicoptère passe en haut de ma maison. Ensuite, Steven Butler s'est fait malmener. Malmener, c'est pas le mot. Je vais faire un segment là-dessus. J'ai des questionnements sur l'arbitre, sur son équipe, le pourquoi on l'a entouré comme ça, le comment de la fin du combat, le qu'est-ce qui s'en vient. Je sais pas. On va en parler. Là. On va prendre 8 minutes. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Alors, j'aimerais remercier le 8% de femme à l'écoute du podcast, ou si vous êtes un homme qui vous sentez comme une femme, c'est votre fête aussi aujourd'hui. En partant, on devrait plus avoir d'hommes ou de femmes, on devrait tous être des humains. Tu sais, il n'y en a pas de différence. Moi, quand je parle à ma meilleure amie, Martine Vaillard-Busson, j'ai aussi l'impression de parler à mon meilleur ami. Tu sais, on jase de boxe, c'est les mêmes sujets. Il n'y a plus vraiment de différence entre un homme et une femme. Tu sais, moi, je peux aussi bien prendre dans mes bras Jonathan Giria et avoir autant de fun que quand je prends dans mes bras Martine. Tu sais, c'est la même tendresse, c'est la même chaleur. On devrait enlever ça, le concept d'homme et de femme, bien trop compliqué. Alors, c'est la fête des mères aujourd'hui. Et ça, la fête des mères, dans mes souvenirs, ça a commencé à être célébré dans de nombreux pays. C'est à l'Antiquité, si ma mémoire est bonne. C'est les Grecs et les Romains qui faisaient des fêtes en l'honneur de la déesse Rhea. Tu sais, vous voyez, là, tout est dans tout. Ceux qui aiment la lutte, là, Rhea Ripley, là, ben, c'est la déesse des Romains puis des Grecs. C'est elle qui est devenue l'image de la fête des mères. Quand Dominique Mysterio il appelle Rhea Ripley « maman », ça vient de là, là. La lutte s'inspire beaucoup de la mythologie grecque et romaine. Ensuite, il y avait au 21e ou 14e siècle, les chrétiens ont commencé à fêter la fête de la Mère Église, le 4e dimanche du carême. Et c'est en 1908 que la militante américaine Anna Jarvis, pour honorer sa propre mère, organise un service commémoratif à chaque 2e dimanche de mai. C'est devenu une tradition dans la ville de Crafton, en Virginie-Occidentale. Et ça, ça s'est étendu dans les États autour pour finalement prendre la possession de l'Amérique du Nord au complet. Donc, voilà, c'est ça qui est la fête des mères. Alors, je vous conseille, bien sûr, du chocolat, si votre mère n'est pas diabétique. Si elle est diabétique, je vous conseille de lui acheter un livre ou des fleurs. Des fleurs, par exemple, ça fane. Donc, peut-être lui trouver une belle plante. Pourquoi pas un poinsettia ou une plante araignée. Alors, c'était ta chronique introduction, chronique fête des mères, chronique, je vous ai encore parlé que j'ai des problèmes mentaux. Pendant l'introduction, j'ai plus de psychologue à cause d'un conflit d'horaire, donc je vais compter mes problèmes à vous autres, puis au lieu de que je paye 100$ de l'heure, vous allez me payer. Merci. Ah, d'ailleurs, je voudrais remercier Lucas Dieudonné, mon fan numéro 1 en France, qui, sur un coup de tête, m'a fait un don sur PayPal. Merci pour ce montant dans les 5 chiffres. Le prochain segment vous est présenté par Fight Night, le défi du peuple. Fightnight.co, prochain gala en juillet, mais je recevrai Benjamin et Sébastien. À un moment donné, je trouverai un moyen d'enregistrer des entrevues quand le monde n'est pas assez à côté de moi. Eux, c'est deux génies, là, c'est deux promoteurs de boxe, mais c'est pas vraiment leur premier métier, là, mais ils font ça par passion. Et eux, ils permettent à monsieur, madame, tout le monde d'avoir un objectif. Tu décides que tu prends 3 ou 4 mois de ta vie et là, tu deviens une machine. Tu es au gym 6 fois par semaine. Tu suis des entraînements, préparateur physique, psychologue sportif, tout est disponible. Et là, tu t'en vas dans le ring de Fight Night. La pyrotechnie, la musique rock, les repas de qualité. Je parle encore de mon poulet bacon et brie. Je l'ai encore. J'ai encore le goût du poulet dans le fond de la gorge tellement que c'était bon. Tu t'en vas là-bas et là, tu vis ton combat. Tu vis ton combat. Tes débuts amateurs, mais dans l'essence d'un gala professionnel tellement que le party est pogné. Prochain gala en juillet. Je vais vous tenir au courant. Écoute, l'analyste est super bon, c'est moi. L'animateur est incroyable. Il y a Claude Buffer, si ma mémoire est bonne. Je ne vais pas me tromper d'un nom parce qu'il y a Claude Malone aussi dans le monde de la lutte. Et tu as Sylvain Pelletier qui fait un travail remarquable. Donc, manquez pas ça, je vous en reparlerai. En direct de mon salon, début de ta chronique préférée, la chronique québécoise, où je te lis les résultats sur BoxRec à ta place, comme si tu n'étais pas capable d'y lire, là, mais c'est parce qu'en même temps, je te fais des belles petites analyses. On a commencé le gala avec Alexa Kubicki contre Linda Contreras Ibarra vendredi. Bon, là, premièrement, avant d'arriver au résultat, OK, c'est que moi, ce qui me fait rire avec le monde de la boxe, c'est que maintenant, la seule affaire qui intéresse le monde, c'est hey, combien t'as vendu de billets? Parce que là, ben, il y a comme un buzz là, que notre bon ami Yvon Michel a de la misère à vendre des billets. T'sais, tout le monde a comme allumé. T'sais, Camille et Stéphane, ils vont au casino. Personne ne va dire hey, as-tu vendu tous tes billets? Il les vend tous. Après ça, s'il va, mettons, à Shawinigan, on va se checker un peu avant des billets. Mais là, Yvon, on dirait que c'est comme catastrophique. Ça l'était avant Jean-Pascal. Mais Pascal a fait 4002. T'sais. Puis là, on a vu. Là, Kim aurait fait 2002. Mais là, ce qui m'a fait rire, c'est que Yvon, il ne parle plus de vente de billets. Il parle de preneur de billets. T'sais. On joue avec les mots. Ça fait qu'exemple, Mario Tessier, qui était assis dans la foule avec Marc-Claude Savard, ils ont une passe écrit « promotion » dessus. C'est qu'ils sont l'invité du promoteur. Donc, eux, c'est deux preneurs de billets. Fait que s'il y a 2229 personnes, c'est pas 2229 billets vendus, c'est des preneurs. Fait que ça vaut rien, dans le fond. Tu sais, c'est... Ben, il va peut-être acheter une bière, là, mais il sait pas, ça te fait pas un grand budget. Tu sais, parce que, mettons que ton idée, là, c'est de rembourser ta publicité, la location de la place Belle, la sécurité, l'éclairage, vous avez compris, par le nombre de billets vendus puis les pay-per-view. Tu sais, si tu vends 100 pay-per-view à 50$, ça fait 5000. Si tu vends 1500 billets à 100$, là, si je sais compter, ça fait 1500, rajoute 2 euros, 150 000. Puis que tu as mis 30 000 en publicité, 80 000 sur la place Belle, 10 000 piastres pour Kim Clavel, ben, à un moment donné, tu perds de l'argent. Puis, ben, je vais vous le dire, il n'y a personne qui aime ça, perdre de l'argent. Tu serais milliardaire, mon ami. Tu t'échapperais un 100 piastres, tu le ramasserais. Là, c'est de même qu'on est conditionné. Donc, personne n'aime ça, perdre de l'argent. Fait que je sais pas. Je sais pas comment ça va tenir. Je sais pas comment ça va continuer. Y a personne dans les arénas. Que je voulais que je vous dise? Au pire, la boxe va mourir. J'en parlerai tout seul le dimanche parce que je ne m'en vais pas nulle part. Alexa Kubicki, qui était comme une prodige du coin de Edmonton, elle a claqué des filles top 10 comme Isabelle Milan. Là, on lui amène Linda Contreras Ibarra. Ça fait 6 ans qu'elle n'avait pas gagné, mais elle était toujours compétitive. Ben, la tabarouette, elle a surpris Kubicki. Elle a gagné facilement les 4 premières rondes. Après ça, Kubicki allait mieux. Victoire de Linda Contreras Ibarra. Kubicki, elle avait flirté, je pense, son père et son agent, puis il avait flirté avec Eye of the Tiger pour être signé. Il y a quelqu'un sous couvert de l'anonymat autour de Eye of the Tiger. Donc, vous comprenez que ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui travaillait chez Eye of the Tiger, mais qui est proche d'Eye of the Tiger, qui m'a dit « Je l'avais vu se faire débattre dans un combat international, sur la scène internationale chez les amateurs. Donc, j'ai conseillé de ne pas la signer. » Et là, on voit qu'ils ont eu raison chez Eye of the Tiger Management. Est-ce que Yvon va la signer quand même? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il va lui permettre de faire une revanche et la signer plus tard? Parce qu'elle n'a que 19 ans. Donc, à suivre. Mais c'était un très bon combat. Ensuite, Patrice Volny a battu Abraham Juarez Ramirez. Écoute, moi, j'étais au courant de l'histoire parce que j'arrêtais pas d'achaler le matchmaker en disant « Tu vas t'en trouver un adversaire? » On était rendu à 8 jours. Le gars est arrivé ici à la dernière minute, perdu au troisième. Volny, tu sais, j'avais le goût de vous dire, j'aimerais ça le voir contre Butler. Là, on en parlera plus tard. Mais là, Volny, je sais pas, laissez-les tranquilles. pas laissez-les tranquilles. Je veux dire, trouvez-y des combats 8 semaines, là, qu'on leur parte. Volny appartient au top 15 de la division des 160. Mais permettons-lui de boxer pour qu'il soit dans ce fameux top 15. C'est pas en se battant aux 18 mois que tu vas être dans le top 15. C'est comme si, je vais donner un exemple, c'est comme si je suis en amour avec une fille, je l'invite au restaurant une fois par année et demie. Ben, je vous l'annonce, là, on fera pas long feu comme... ça fera pas long feu comme relation. Sébastien Bouchard, lui, a battu Fernando Altamirano Marquez au 6e. Grand bien lui fasse. J'ai hâte de le revoir à Québec dans un combat de finale avec les autobus OG, avec Choix Radio X, avec le FM 93, puis la Bête Steakhouse comme commanditaire, puis on vendra du ticket. Caroline Vert est impliquée dans le combat, le meilleur combat de la soirée, et là, je me permets de critiquer, là. Moi, j'ai Caroline Vert qui gagne 6-2. Mais tu sais, un 6-2 que je suis très à l'aise, là. Puis Gongora a clairement gagné un minimum de 2 rondes. Tu sais, Blouin en a 3. Le juge Blouin en a 3. Le juge Roussel, lui, en a 2 pour Gongora. Marie-Josée Guérin, il va de 80-72. Je suis un peu mal à l'aise. Ça fait plusieurs fois que la juge Guérin semble à côté de ses souliers. Ça avait commencé ça. Elle a une tendance à donner vraiment tout le temps la plus grosse marge en fonction pour le boxeur québécois. Je me demande s'il y a un mécanisme à la régie où, tu sais, pour vous donner un exemple, Blouin. Lui, il a 77-75. Toutes ses rondes, il est avec Benoît Roussel. T'sais, ben Roussel à 78-74, lui, il a un round qu'il voit avec Guérin vert gagnante. Blouin, lui, a un round où il voyait tout seul avoir vert gagnante, t'sais, si vous comprenez ce que je veux dire. Puis Guérin, elle est tout seule, à un moment donné, deux fois avoir vert gagnante, elle est tout seule. T'sais. Fait que je me demande si ces fameux rondes-là où t'es tout seul à voir quelqu'un gagnant, si c'est comptabilisé, puis qu'on fait comme une moyenne, puis on dit, ah, regarde, à la fin de l'année, on remet des bulletins, puis t'es le moins bon cette année. T'sais. Puis là, le moins bon, moi, j'ai des actions en bourse, j'ai 5 actions. Mon action qui roule le moins, je la change à chaque année. Est-ce qu'on devrait changer le juge qui a la paie moyenne à chaque année? T'sais, je pose une question comme ça. Je sais pas... En même temps, j'imagine qu'ils ont des mécanismes. Arrangez-vous. C'est juste que ça fait une couple de fois. Là. On va surveiller. Et en finale, Kim Clavel va battre Naomi Arellano-Reyes. À partir du 7e, est coupée. Elle gagne, elle perd les 2 dernières rondes. Roussel la voit perdre 4 rondes. Sans dire que je suis inquiet... Il n'y a rien dans ce combat-là qui me laisse croire que Kim est amélioré sur la version qu'il a perdue contre Jessica Neri Plata. Et il n'y a rien qui me laisse croire dans ce combat-là, si je suis honnête et je le suis, vous savez à quel point j'aime Kim. Il n'y a rien qui me laisse croire qu'elle battrait Evelyn Bermudez. Il n'y a rien qui laisse croire qu'elle battrait Jessica Neri Plata à la revanche. Il n'y a rien qui laisse croire, comme on voulait faire au début, qu'elle est une adversaire logique pour Yocasta Valle ou Senesia Estrada. Ces filles-là risquent de s'affronter entre elles et peut-être, malheureusement, ne pas avoir Kim dans leur viseur. À moins que Kim remette la main sur une ceinture. Il y a aussi Marlène Esparza à 112. Ils sont comme 6 ou 7 à pouvoir s'affronter entre eux autres et faire pas mal de sous. Donc, si on n'est pas propriétaire d'une ceinture, on va pas attirer les autres. Fait que Kim, ça va être le jeu là, de coulisses de Yvon Michel d'aller chercher une adversaire. Qui est soit Bermudez ou Neri Plata pour qu'elle ait une ceinture, et que là, ça va être à Kim et à son équipe d'aller gagner cette revanche-là pour si ce qu'elle voulait, c'est des combats millionnaires. Si ce qu'elle voulait, c'est d'affronter Cinesio Estrada, de se battre dans une unification complète, peut-être contre Bermudez après, c'est le combat de sa vie, ça va être ce combat de championnat-là. Mais entre-temps, est-ce qu'on peut dire... Puis on entend souvent ça avec les boxeurs de Stéphane Larouche. Là, oui, c'est Daniel Bouchard, mais elle travaille beaucoup avec Larouche. Est-ce qu'elle a plafonné? Est-ce que qu'est-ce qu'on a vu vendredi, c'est la version finale de Kim Clavel? T'sais? Parce que un moment donné, c'est bien beau, on s'améliore, un moment donné, t'as 31, 32 ans. Tu peux plus rien apprendre. Là. Moi, je vais coder des colis au travail. Là. Mes doigts ne peuvent pas aller plus vite qu'ils allaient il y a 5 ans. T'sais? Je suis plafonné. Là. Puis même que mon employeur dirait que je suis de moins en moins bon parce que je suis distrait, puis je pars aux fraises, puis je perds ma concentration. Fait que c'est ça. Fait que Kim Clavel, c'est est-ce qu'elle a plafonné? Question numéro 1. Question numéro 2, est-ce qu'elle gagnera ce combat de championnat qu'on va lui trouver? Parce que sinon, j'ai bien peur de vous dire ça, ça va être la fin des émissions. Ben, elle va pouvoir se battre, mais elle pourra pas retourner en championnat du monde. Il y a une occasion qui s'en vient, il va falloir absolument la gagner. Sinon, il y avait 2229 personnes, une trolley de billets gratuits, deux combats qui ont été annulés. L'adversaire de Thomas Blumenfeld, il essaye de se rendre au commissariat pour aller chercher sa licence. Commissaire est à mort. Fait que ça fait partie du folklore de la boxe. Yvon Michel a parlé que son prochain gala était le 27 juillet, mais qu'il pouvait revenir entre-temps. À suivre, mesdames et messieurs. Maudit que j'ai honte. J'avais oublié de mettre mon téléphone sur le mode paravion. Puis là, ça griche un peu. Puis je suis trop paresseux pour recommencer. Fait que désolé. Écoutez le segment de Butler à travers les petits bruits. Là, c'est pas terrible. Pour les segments de Kim Clavel. Stephen Butler était à Stockton, Californie, où il affrontait Zanibek Alim Kanouli. Moi, j'avais dit, puis là, vous allez me trouver désagréable, mais j'avais dit que Stephen Butler allait perdre au cinquième. Après avoir vu la différence de corpulence entre les deux hommes, j'avais dit quatrième dans ma tête, OK? Puis, ce que j'espérais, parce que j'avais parlé à beaucoup de monde, OK? Puis là, il y a du monde, tu sais, j'ai parlé à beaucoup de monde qui, exemple, était dans le même gymnase, mais n'était pas impliqué dans le camp d'entraînement de Butler. Puis ce qu'on me disait, c'est j'espère que le combat va être assez long pour qu'il puisse nous montrer à quel point il est en bonne condition physique, à quel point c'était le camp d'entraînement de sa vie, à quel point il est rendu bon offensivement, à quel point il est bon défensivement. Puis là, il arrive dans le ring, étrangement, il respectait beaucoup Alim Kanouli. Mais, tu sais, puis Jean-François Chabot de Radio-Canada, puis Matt Cazavant, j'ai échangé des textos avec eux hier dans la journée, puis je leur ai dit la même chose, puis c'est pas pour me vanter, puis c'est pas pour qu'on me qualifie d'expert, parce que je suis un expert. C'est écrit dans le journal. Mais je le savais, moi, ce qui allait arriver. Pourquoi? Parce que mon cerveau, là, je l'utilise, au lieu d'utiliser à 8% comme vous autres, j'utilise exactement à 8% comme vous autres. Là, vous dites, la phrase, ça marche pas, hein? Oui, elle marche. Parce que dans votre cerveau, là, du 8%, il y a votre femme, vos enfants, vous pensez à vos enfants avec l'école. Exemple, Martine Vallière-Bisson, mon idole, elle pense à ses athlètes qu'elle entraîne, comment elle peut les rendre meilleurs avec ses cours. Elle pense aux enfants qu'elle entraîne dans à la commission scolaire. Après ça, vous pensez à vos femmes, vous pensez à votre travail. Moi, mon travail, là, c'est répétitif. Je peux le faire une main attachée dans le dos. Je peux faire mon travail les yeux fermés avec 25 ans d'ancienneté. J'ai pas de femme, pas d'enfant, pas d'amis, pas de maison. Pas d'auto. J'ai aucun problème. J'ai rien à réfléchir. J'ai une femme et partie en voyage. Puis je sors pas avec. C'est juste pour les câlins puis souper. Fait que j'en ai pas de problème, tout va bien. Fait que mon cerveau, il pense qu'à la boxe. Et là, je me rappelais Kazakh contre Québécois. Là, je reviens en arrière dans ma tête. Butler, Lemieux, Golovkin. Qu'est-ce qui est arrivé, les amis, à Lemieux, Golovkin? Golovkin était celui qui frappait le plus fort. Mais il a respecté la force de frappe de Lemieux. Il est devenu un technicien, puis il a attendu. Mais attendu. Pourquoi? Parce qu'il y avait 350 combats amateurs, puis Lemieux n'avait 40. Il dit, il va finir par faire une erreur, je vais le faire payer. L'expérience. Il y a une chose que l'argent ne peut pas acheter, c'est l'expérience et la sagesse. Qu'est-ce qu'il a fait, Alim Kanouli? Il savait qu'il y avait 350 combats amateurs, 310 plutôt, 300 victoires. Il savait que le Butler n'avait pas beaucoup. Après ça, il savait que Butler avait 3 KO. Il savait que lui, il n'avait pas. Que ça allait tenir. Il a attendu. Butler, lui, a attendu. Il espérait qu'Alim Kanouli rentre pour lancer sa grosse droite. Un moment donné, il fait une erreur. Il se ramasse trop proche. Bang! Uppercut de la main arrière. Merci, bonsoir. Après ça, j'ai envie de me questionner sur un million d'affaires. Pourquoi ne laisser Steven revenir 3 fois? Steven a déjà subi 3 KO dans sa carrière. Il a 2 magnifiques enfants. Il a une femme magnifique qui est devenue une entrepreneur. Financièrement, ça va bien. Il pourrait probablement vivre juste avec le salaire de sa femme. Lui, c'est un athlète. Il peut aller travailler sa construction. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut vendre des chars, mettra son nom, ses cartes d'affaires. Tout le monde le connaît. Il a plein d'opportunités. Il a plein d'affaires qu'il peut faire. Est-ce qu'il peut continuer à boxer? Oui. Est-ce qu'il va falloir passer des tests pour s'assurer que sa tête est correcte? Il ne faut quand même pas niaiser avec ça. Là. C'est un cerveau, puis il a déjà subi 4 KO. Un KO, c'est une commotion. Là. Donc, oui, il faut s'assurer que son cerveau est correct. Mais est-ce qu'on pourrait le ramener sur la scène québécoise? Tu sais, 4 ou 5 combats. Je vais donner un exemple. Là. Vous allez dire, Poulain, Foubraque. Mais admettons qu'il veut absolument boxer. Là. Puis qu'on décide qu'il boxe, tu sais. Je ne dis pas que je suis d'accord, mais admettons là, qu'on décroche pas. Là. Ben, il peut affronter Francis Lafrenière si Lafrenière décide de revenir. Il peut affronter Volny. Il peut affronter 2 Mexicains, puis on le reconstruit. Ah, je vous dis pas que c'est parfait, là, mais si c'est ça qu'on veut absolument faire, ben faites-le, que je voulais que je vous dise. Dans un monde idéal, je pense qu'il devrait aller chercher un métier, une formation, travailler sa construction, devenir chauffeur d'autobus à STM, faire 85 000 par année, devenir entraîneur de boxe, mais espérons juste qu'il va prendre la bonne décision pour sa santé. L'argent et la carrière est toujours moyen d'en faire, mais la santé. Puis, de garder sa tête parce qu'il y a une famille magnifique, il y a une femme magnifique, il y a des enfants magnifiques, il y a une magnifique maison. Faut pas perdre tout ça, OK? Puis pour le reste, écoute, il va avoir quand même le sentiment d'être allé au bout. Il est allé 2 fois en championnat du monde, il a essayé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est deux fois de plus que moi. Puis moi, je suis fier de lui, pas au niveau du résultat, là, mais chuter du fait qu'il a pas peur de personne, il refuse pas de combat, il y a personne qui voulait l'affronter, cet animal-là de Alim Kanouli. Lui, là, ça a pris 5 minutes, il signait en bas du contrat. Il a quand même du courage, là, tu sais, puis à la limite, le courage a joué contre sa santé les 2 fois qu'il s'est relevé, tu sais, mais bravo Steven Butler, pour ça, pour le courage, pour le fait que t'as peur de rien, pour le fait que tu y vas quand on te donne une opportunité. Après ça, on va juste espérer que tu prennes la bonne décision pour la suite des choses. Et je réfléchissais, puis est-ce que c'est la bonne stratégie du côté d'Eye of the Tiger de jouer sur le volume pour gagner un championnat? Tu sais, je réfléchissais à haute voix dans ma tête. Puis on a envoyé dirigeant contre Terence Crawford. Le frère de Jean, je pense, venait de mourir. Jean, ça n'a vraiment pas été une grande performance. Tu sais, je regardais ça, là. le mieux contre Golovkin. T'as négligé à 12-13 contre 1. Je réfléchis ça à haute voix. Kevin Bizier, mais là, ça, c'est pas Eye of the Tiger, là, mais peut-être plus une méthode québécoise. Kevin Bizier puis Jojo Dan contre Kell Brook. Je veux dire, on en a envoyé souvent des boxeurs, entre guillemets, à ce que j'appellerais à l'abattoir, en se disant, sur le lot, on a peut-être un qui va gagner un moment donné. Tu sais, puis regardez, Ilander Alvarez était fortement négligé quand il a battu Sergei Kovalev. Fait qu'en même temps, on peut pas s'empêcher d'essayer. Mais tabarouette que les conséquences sont dramatiques. Puis hier, il faut s'interroger sur... et j'adore Rénal Boisvert, mais sur le travail de Rénal Boisvert de ne pas arrêter le combat après la deuxième chute. Il faut s'interroger sur la présence du père de Steven Butler, qui est un homme émotif. Et j'ai aucune info. Ben, est-ce que c'est lui qui a comme averti les deux autres d'arrêter pas le combat? Ou est-ce qu'il voulait l'arrêter puis c'est Rénal qui a pas voulu? Il va falloir poser les questions. C'est Camille qui est pas loin en arrière, pourrait crier « Arrêtez ça! » Mais en même temps, ce serait comme de l'ingérence du promoteur avec l'équipe d'entraîneurs. Steven aurait, lui, il a pas voulu abandonner. Puis, en même temps, ça, c'est un peu comme un couteau à deux tranchants. T'sais. Quand t'abandonnes, tu te fais traiter de lâche. Quand t'abandonnes pas, tu te fais traiter de fou qui est trop courageux. C'est, tu peux pas gagner. Là. En politique, on appelle ça un catch 22. Mais au final, c'est ça que j'ai envie d'admirer. C'est le courage, le fait qu'il a peur de personne, le fait qu'il a accepter les opportunités, puis qu'au final, il n'y aura pas de regret de ne pas avoir essayé. Parce que si je transpose dans ma vie personnelle, moi, j'essaye jamais rien. Fait que j'échoue jamais rien, mais je réussis pas grand-chose. Fait qu'au moins, il a essayé. Ouais, on va se dire la vérité, là. J'ai vraiment fait une fin de semaine de boxe. Okay? Ça veut dire quoi, une fin de semaine de boxe? C'est que vendredi soir, qu'est-ce que j'ai mangé pour souper vendredi soir? Il me semble que ça avait beaucoup de classe. Ah oh, ouais, mais je me suis fait de la pizza maison avec des bagels. Mais là, finalement, j'avais pas envie de mettre de sauce à pizza. Fait que tenez-vous bien, j'ai mis de la margarine, ces bagels, du fromage cheddar, puis trois sortes de salami différents pour faire ma pizza. Je me suis fait trois demi-bagels de même. Et c'était bon dans le air fryer. C'était bon en joie le vert. Après ça, je me suis assis avec un sac de jelly beans du magasin Pièce. Et j'ai écouté le gala de groupe Yvon Michel. Je me suis fait une fin de semaine de boxe. Hier matin, j'étais allé au brunch avec Paul Dubé. Pas de gants blancs. M'obstiner avec Paul. Il y avait Yann Pellerin comme invité au resto-bar Capri dans Pointe-Saint-Charles, je pense, ou Ville-la-Salle, sur Wellington. Puis là, je suis allé là, je s'obstinais avec Paul, j'osais de boxe. Je suis revenu chez nous, tranquille, et là, tenez-vous bien, il y avait Ryan Mary contre Kevin Lerena pour donner aspirant obligatoire chez les Bridgerweight. Et Lerena, le gaucher... Il a pas mal brassé Mary qui voulait y aller pas mal one punch, puis ça a pas marché. T'sais. Fait que j'ai écouté ce combat-là. Et là, j'ai écouté... Là, je me suis gâté, les amis. J'ai écouté la sous-carte de Rolly Romero contre Ismaël Barroso, que on va parler tantôt. Là. J'ai écouté ça. Après ça... On va parler combat par combat. Il y avait sur DAZN, il y avait Zoïd Darani, qui est un énorme talent, 4 fois champion d'Hongrie, 4 fois champion canadien, raté les Olympiques, possiblement parce qu'on ne voulait pas reconnaître sa double citoyenneté, une patente à pu finir. Mais lui, il est au poids de Steven Butler aussi. Je reviens souvent avec ça. Là. C'était comme deux prodiges. Il y avait Butler et Darani. Darani, on l'a surprotégé, fait qu'il est 19-1 aujourd'hui. Butler, on ne l'a pas surprotégé, fait qu'il est 32-4. Fait que Darani a gagné en finale. Il y avait Eric Basran, qui, lui, n'est plus chez Yvon Michel parce que son contrat avec le groupe Yvon Michel était comme financé par Pro Bellum. Puis là, Pro Bellum, ça a mal fini. Fait qu'il n'y a plus de Basran. Là, lui, il a gagné une décision. Puis le Québécois Eder Clairvoix, lui, a obtenu sa deuxième victoire. Il est 2-3. Peut-être qu'un jour, on le verra dans une sous-carte. Donc, il y avait ça au Canada. J'ai écouté mon combat de... comment il s'appelle? Je viens d'en parler. Hein? Gaucher Kevin Lerena qui est devenu... Kevin Lerena est devenu aspirant numéro 1 au titre de Luka Rosinski qui est là où l'ancien champion est en repos. C'est Oscar Rivas. Je ne sais pas si un jour tout ce beau monde-là vont devoir s'affronter. Là. Inquiétez-vous pas. Je surveille ça du coin de l'œil. Il y a John Riel Casimero qui a perdu aux Philippines. Ça, j'avais noté ça sur ma feuille mobile. Kevin Lerena, ça avait lieu en Afrique du Sud. Donc, on va s'en aller vers un Lerena. C'est bizarre parce que la catégorie des 2,25, tout le monde s'en sac comme sa dernière chaussette. Mais finalement, tu sais, quand tu mets un combat éliminatoire entre Mary et Lerena, ça s'écoute très bien sur un lien légal et gratuit sur YouTube. Tu sais, moi, j'ai passé une excellente fin d'après-midi à regarder ça. Hier, dans la sous-carte de Stephen Butler, il y avait Jason Moloney qui... C'était la troisième fois qu'il avait une chance en championnat du monde. Puis il m'a fait très Moloney parce qu'il a comme été ultra conservateur. Les gens le huaient à tout casser. Mais finalement, c'était la performance à faire pour gagner une majority de ces jeunes. Il était tellement plate que je pense qu'il y a des juges que même s'il dominait les rondes, il le donnait à l'autre parce qu'il était plate. Fait que Moloney est devenu champion et son frère se bat aussi aux États-Unis en championnat du monde la semaine prochaine contre un boxeur japonais que je n'ose pas nommer. Javier Martinez et Joe Sean James s'affrontaient dans un duel de prospects. Ça a fini nul. Gabriel Flores Jr., on essaye de le repartir. Lui, il a gagné par KO. En partant au premier, Brian Norman Jr., que son frère a affronté Jean-Pascal, il est rendu 23-0. Il avait amené un meilleur adversaire. Régler ça en 8 rondes. C'est un gars qui frappe pas fort, mais qui sait boxer. Il va falloir le surveiller un jour dans nos prospects. Rolly Romero, après avoir visité le tapis, a battu Ismaël Barroso par arrêt de l'arbitre et Barroso menait sur les trois quarts des juges. Barroso qu'on a vu battre et Yves Ulysse. Il s'est excusé, Romero, à Barroso en disant « Ça n'a pas de bon sens, l'arrêt de l'arbitre. Je m'excuse, mon ami. » Fait que ça m'a surpris. Batirzon Akhmedov, qu'on appelle Batir Akhmedov, a perdu une majority contre Kenneth Sim Jr. Et là, écoutez-moi, là. Batir Akhmedov et Kenneth Sim Jr., combat de l'année présentement. Fait que il pleut, ou vous êtes triste à la maison, vous avez du temps à chasser. Allez écouter ça, c'était la folie furieuse. C'était fou, là. Batir Akhmedov n'a jamais arrêté d'avancer. Il est coupé. Kenneth Sim, il a un œil fermé, enflé. Akhmedov travaille encore à corps comme d'une cabine de téléphone. Il n'arrête jamais. Sim, il te le poivre. À un moment donné, il y a des minutes là, où Akhmedov, il est 15-15. Après ça, Kenneth Sim finit le 40 secondes. Il est 12-12. Tout passe. Là. En tout cas, c'était la guerre. Esturi Suero, un prospect, affrontait Starling Castillo, un vétéran, a perdu et s'est fait enlever des points au 9e et au 10e. Ça aurait fait la différence. Frappé derrière la tête. Tout un combat, ça aussi. Ranz Barthélémy gagne une majority contre Umar Juarez. On nous avait pris... C'était une bonne carte, ça. Je veux dire, les autres, ils ne nous avaient pas présenté de la boîte à l'autre poste. Fait que je me promenais d'un poste à l'autre. Je te pitonnais ça. Gérer ça. On a bien géré ça hier. C'est pas mal tout ce qu'il y avait hier, par exemple. Je viens de vous faire le tour assez rapide des galas du week-end. On a-tu des affaires à checker la semaine prochaine? C'est vrai, ça, j'oublie tout le temps. La semaine prochaine, si ma mémoire est bonne, c'est Lomachenko contre Devin Haney. Lomachenko, il est génial. C'est super rare qu'il ait négligé. Je pense qu'il n'a jamais été dans sa carrière. Mais Haney, c'est comme... Tu sais, vous avez des yeux pour voir, là. Il est beaucoup trop grand, il est beaucoup trop gros, puis il est beaucoup trop fort. Mais Lomachenko, on dirait qu'il est au courant que tu sais, pour marquer l'histoire, il faut faire des affaires que personne ne veut faire. T'sais. Fait que est-ce que Lomachenko pourrait nous sortir un chef-d'œuvre et ce serait sa victoire signature pour faire comme Pach, un des plus grands de tous les temps, regardez. Pah! Tu sais, ça se pourrait aussi. Fait que je suis bien intrigué, OK? Bien intrigué. Mais Annie est supposée gagner. Et là, il faut que je vous dise, la semaine prochaine à Dublin, en Irlande, ils nous ont organisé une grosse carte de boxe. C'est de la grosse qualité, là. Chantel Cameron, unification contre Cathy Taylor. Terry Harper défend son titre contre Cecilia Bracus, la légende. Denis Hogan, 9e au monde contre James McCall, 18e au monde pour la IBO. Mais on s'en fout de la IBO, mais c'est Hogan, McCall, c'est vraiment un bon combat. Puis t'as José Félix contre Gary Cooley, qui est 16-0. Fait grosse carte en Irlande. Moi, après, j'écoute ça dans l'après-midi en bobette. Fin de semaine en plus qu'il y a une fête la semaine prochaine. Fait que c'est fin de semaine de 3 jours. En attendant le gala de Annie contre Lomachenko. Je veux dire, t'es bien en maudit, là, en bobette. T'installes tranquille, t'as tes 4 combats, puis ça fait passer le temps, tu sais. C'est sûr, vous avez une femme puis des enfants à aller souper, là, mais moi, ben, je suis tout le temps tout seul, fait qu'aussi bien écouter ça. Fait que la carte de David Haney contre Vasyl Lomachenko, en sous-carte, c'est là qu'il y a le Andrew Maloney, le frère de l'autre que je vous parlais tantôt. Vous voyez comment tout est dans tout. C'est bien pensé, hein? Et là, il va affronter Jonto Nakatani pour le titre WBO. 2 frères, 2 championnats du monde, 1 semaine de différence. Moi, je trouve ça beau. Il y a le prospect Raymond Muratala qui va affronter Jeremiah Nakatila. Et Oscar Valdez va affronter Adam Lopez. Ça, c'est correct, là. Puis le petit-fils de Mohamed Ali est encore là. Il y a le petit-fils de Mohamed Ali, Nico Ali Walsh, contre Danny Rosenberg. Et le fils de Fernando Vargas, Emiliano, contre Raphaël Jasso. Fait que on joue là, les deuxième puis troisième génération. Manquez pas ça. Sinon, c'est assez tranquille dans le reste du monde la semaine prochaine. Puis tu vas pas à terre. Il y a dimanche prochain, il y a Luca Badi, un des bons boxeurs au Canada. Mais vu que c'est un dimanche, je vais vous en parler samedi prochain. Ici, comprenez-vous l'astuce. Alors, c'est pas mal la fin du podcast. OK, je vous vois à la maison. Toi, t'as pas parlé des affaires à l'international. Bon, ben, je vais t'en parler un petit peu, là. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ah, OK, ouais, pas fou. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que Derek Chisora négocie avec Meris Bredis pour un combat en Arabie Saoudite. De La Hoya s'est fait aller à grand gueule pour planter Canelo toute la semaine en disant qu'il battra plus jamais Bivol ou personne de bon. Lara contre Lee Wood, la revanche le 27 mai, ça va être la folie furieuse. Ils se sont crachés dessus l'autre fois. Gervonta Davis contre Shakur Stevenson, ça a l'air que ce serait le combat qui va sauver la boxe. Errol Spence s'est fait challenger par Rolly Romero après qu'il ait volé Ismaël Barroso. Qu'est-ce que vous voulez d'autre comme nouvelle? Il se passe pas grand-chose cette semaine. Régis Progrès va affronter... c'est qui donc son adversaire? Mais j'ai oublié le nom. Liam Paro, je pense. Mais je suis plus sûr. Là. Ouais, Régis Progrès va affronter Liam Paro. Sinon... on prépare Wilder contre Joshua en Angleterre. Et ce sera tout. Merci, je vous aime tous d'un amour profond.